Bien, je remercie le Seigneur pour cette occasion d'être avec vous une fois encore et de regarder ensemble dans la parole de Dieu et d'étudier cette parole avec cette prière que le Seigneur lui-même nous donne, son esprit de connaître comment chaque parole que nous lisons dans la Bible concerne le Seigneur Jésus-Christ. Alors pour aujourd'hui, mon texte se trouve dans la deuxième épître de Paul à Timothée et le chapitre 4. Et je vais lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 22, qui est la fin de cette épître et de ce chapitre que nous étudions ensemble. Alors, dans 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 17, nous lisons « C'est le Seigneur qui m'assiste et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent, et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquila et la famille d'Onésiphore. Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver, Ubulus, Puden, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Avant de continuer, remettons ces moments au Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour cette occasion de nous rassembler et je te remercie du fait que tu nous donnes ta parole que nous avons dans nos mains et nous avons le privilège de lire et de l'écouter. Alors, cette liberté, nous savons que certains n'en ont pas. Et si nous l'avons, c'est parce que, dans ta grâce, tu as ordonné à ce que nous soyons des récipients de cette parole et que cette parole nous soit adressée. Alors, Seigneur, je te prie de diriger mes pensées et mes paroles et diriger mon esprit et que tu sois avec chacun qui écoute maintenant, que toi-même tu ouvres les cœurs des tiens et que tu enseignes par ton esprit chacun selon ta volonté. Et nous allons te rendre la grâce et l'honneur et la puissance en toutes choses. Et c'est dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je te prie. Amen. Alors, aujourd'hui, je voudrais, dans ce message, vous parler des souffrances du temps présent que chacun qui appartient au Seigneur doit connaître durant cette vie. Je sais que certains ne comprennent pas que si nous sommes des enfants de Dieu et que le Seigneur Jésus lui-même nous a sauvés, alors pourquoi les souffrances? Mais je dois dire que c'est Dieu lui-même qui ordonne ces souffrances pour notre bien et pour sa gloire, parce que nous avons en nous ce cœur, cette nature pécheresse qui chercherait, si laissée à elle-même, chercher la gloire. Et c'est à travers les souffrances que Dieu agit pour nous abaisser et pour nous montrer jour en jour notre besoin du Seigneur Jésus-Christ et de son œuvre de grâce qu'il a accomplie pour son peuple. Alors, Paul, ici, est l'exemple de cette souffrance. Il est en prison, il attend maintenant sa mort à la main du gouvernement romain. Il est là à cause du témoignage de Jésus-Christ. Et donc, en écrivant à Timothée, il écrit pour encourager Timothée dans cette même grâce qui lui a été révélée et dans laquelle lui-même, Paul, il vit. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons dire que c'est uniquement par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. Notre respiration physique dépend de Dieu et surtout nos vies spirituelles dépendent de Dieu. Alors c'est pourquoi il regarde vers le Seigneur dans les souffrances qu'il a endurées à l'époque et que nous devons aussi anticiper si nous sommes enfants de Dieu. Donc, quelle est la nature de cette souffrance? Souvent, c'est d'être abandonné des hommes, même ceux qui nous sont proches. Paul avait certain qu'avant d'aller en prison, apprécier son ministère, mais dès qu'il est parti en prison et que maintenant c'est devenu une question de vie ou de mort, il y a beaucoup qui l'ont abandonné. Mais c'était pareil avec le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est allé à la croix, il devait aller seul. Et lorsqu'ils sont venus chercher le Seigneur Jésus-Christ pour l'amener en jugement devant Pilate, tous ses disciples ont fui. Mais même cela a été prédit dans l'Ancien Testament. Ce n'était pas une surprise pour Dieu. Dieu l'a ordonné parce qu'il fallait que Christ marche sur ce chemin seul. Le salut vient de lui. Et il n'avait pas besoin de l'assistance de qui que ce soit, si ce n'était de dépendre entièrement de son Père et remettre son sort à son Père. Il est venu accomplir la justice de son Père à l'égard de ses pécheurs qui l'ont abandonné. Alors, nous savons que si Christ était isolé et haï par ce monde, c'est sûr que nous qui sommes ses disciples, nous pouvons anticiper la même chose. Alors, voilà quelques points que je voudrais retirer, soutirer de ce passage que nous avons devant nous dans 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 17, concernant les souffrances du temps présent. Quelles que soient les souffrances, nous savons que c'est la main du Seigneur qui dirige. Et même les souffrances viennent de sa main. Nous ne devons pas oublier cela. Il est le Dieu qui donne la vie et c'est lui aussi qui tue. Telle est sa souveraineté. Mais voilà le confort pour ceux qui sont à lui dans ses souffrances. Premièrement, c'est que le Seigneur n'abandonne jamais les siens. Peut-être que les hommes vont nous abandonner, mais non pas le Seigneur. Paul a eu ces épreuves dont il parle ici, dans ses amis qui l'ont abandonné dans un temps de danger, aussi bien que dans l'opposition faite par des ennemis. Tous l'ont abandonné, en fin de compte. Mais il dit dans le verset 17, « C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. » Parce que dans le verset 16, il dit, dans ma première défense, lorsqu'il devait se tenir devant la cour romaine pour répondre aux accusations qui lui ont été adressées à cause de l'évangile, il dit, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Nous devons savoir que si Dieu révèle en nous son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons anticiper une vie d'isolation. Ce n'est pas une voie populaire, mais ce que le Seigneur appelle, vous allez peut-être demander, mais qui est-ce qu'il appelle? Il appelle ceux que le Père lui a donné depuis l'éternité et pour qui Christ est venu payer la dette. Ceux-là, il ne les abandonne jamais. Peut-être que les hommes nous abandonnent, mais jamais le Seigneur. Et c'est pourquoi l'auteur a écrit aux Hébreux dans son épître aux Hébreux et le chapitre 13. Hébreux chapitre 13, nous lisons « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Il faut se poser la question, pour quelle raison est-ce que les gens abandonnent cette voie du Seigneur ou bien qui court pour aller dans un autre sens? C'est quand ça touche à leur vie, surtout leur pain quotidien. Mais l'encouragement que nous avons ici, c'est que nous ne devons pas avoir en nous cet amour d'argent. Je sais qu'il y a des prédicateurs, c'est la raison qu'ils prêchent, ils cherchent une meilleure occasion, avoir un meilleur soutien. Et donc, ils préfèrent ne pas prêcher l'évangile, non pas parce que ce n'est pas clair dans les Écritures, mais parce qu'ils ont besoin de gagner leur vie. Et donc, c'est pourquoi ils prêchent. Mais nous sommes exhortés ici de ne pas laisser cet amour d'argent nous influencer. Contentez-vous, c'est écrit, de ce que vous avez. Si nous constatons ce que nous avons déjà en Jésus-Christ par la grâce de Dieu, cette vie éternelle qui est donnée à ceux qu'il a rachetés par son sang et que le Père a déclaré juste à cause de son œuvre parfaite accomplie à la croix, qu'est-ce qui nous manque? Peut-être que dans ce monde, nous allons connaître des difficultés, mais ça c'est pour un temps seulement. Ce qui est sûr, il n'y a pas de don plus précieux que de savoir que le Seigneur lui-même est avec nous. Et c'est ça que nous avons ici dans Hébreux 13. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Imaginons que tous ceux pour qui Christ a payé la dette sont sauvés pour toujours, à jamais. Et ils ne seront jamais séparés de lui. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, notez bien, Hébreux 13, 6, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. » Tout ce que les hommes peuvent nous faire, c'est pour un temps seulement. Mais ce que le Seigneur accomplit à l'égard de son peuple est pour toujours. Et ça, c'est une bénédiction. Alors, vu les souffrances du temps présent, nous devons nous encourager de ce fait que le Seigneur n'abandonne jamais les siens. Alors, c'est Dieu qui prend soin de nous. Mais deuxièmement, quelles que soient les difficultés ou bien l'immensité des souffrances que nous devons traverser, ce deuxième point aussi est important, c'est que le Seigneur est toujours auprès des siens. Paul a dit, personne ne l'assistait si ce n'est le Seigneur. Ouais, le verset 17, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Dans cette défense, il faut dire que son auditoire n'était pas un auditoire qui appréciait le message de l'Évangile. Ça, c'était des Romains, c'était des hommes durs, c'était des hommes qui avaient confiance dans leur justice et leur loi, des hommes endurcis en dehors de Christ. Pourtant, Paul dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Imaginez que c'est pour cette raison que Dieu a amené Paul à Rome, afin qu'à travers son témoignage, même si lui-même il était devant la justice et condamné, c'était pour lui une occasion de prêcher l'Évangile. Ça, c'est une leçon importante pour chacun de nous. Que quelle que soit la situation dans laquelle Dieu nous a placés, si nous sommes enfants de Dieu, c'est une occasion de témoigner de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Donc, malgré tout, Dieu se tenait près de lui et lui donnait cette sagesse et le courage extraordinaire, parce que ça ne vient pas de nous. Le fait de se tenir devant les hommes qui haïssent le Dieu de la Bible, qui ne veulent pas du tout de ce Sauveur dont la Bible parle, et néanmoins leur parler de lui, c'est un courage extraordinaire. Mais Dieu l'a voulu, parce que c'est certain qu'il y avait là ceux qui étaient des élus de Dieu et qui devaient entendre parler du Seigneur Jésus-Christ. C'est difficile peut-être pour certains de croire, mais il y avait des élus dans la maison de César même, dont Paul lui-même salue dans une de ses épîtres, disant que ceux de la maison de César, César était un dictateur qui était farouche et qui a emmené beaucoup de chrétiens à la mort à cause de leur témoignage. Pourtant, Dieu, dans sa grâce souveraine, avait certains dans sa maison qui devaient écouter, qui devait entendre cette prédication de l'Évangile. C'est pourquoi Paul dit que par moi la prédication fut pleinement connue. C'est-à-dire, Dieu m'a fait sortir de cette difficulté, Paul dit, pour prêcher l'Évangile. Et devant la barre, comme dans la chair, ces païens devait entendre l'empereur lui-même. Imaginez, dans cette cour, l'empereur lui-même et tous ces grands hommes qui n'auraient jamais entendu l'Évangile l'ont entendu ce jour-là. Et c'est le Seigneur qui était avec Paul pour qu'il prêche fidèlement cet Évangile. Quand il dit dans le verset 17, j'ai été délivré de la gueule du lion. Cela ne veut pas dire qu'il était littéralement en face des lions à ce moment-là, mais le lion dont il parle là, c'est l'opposition. C'est comme Satan qui va partout pour dévorer s'il pouvait ceux qui appartiennent au Seigneur. Mais notre espoir et la grâce, c'est que Satan ne peut pas toucher un de ceux pour qui Christ a payé la dette. Peut-être qu'il peut enlever leur vie physique, si Dieu le veut, si telle est la volonté de Dieu, mais il ne peut pas toucher à son âme. Alors, en troisième lieu, nous voyons aussi un encouragement pour ceux qui appartiennent au Seigneur, et c'est que le Seigneur donne la grâce d'améliorer nos expériences. On a eu quelques difficultés technologiques, mais je crois que nous sommes revenus. Alors, le troisième point, c'est que le Seigneur donne la grâce d'améliorer nos expériences. Cela veut dire que c'est la grâce de Dieu qui fait en sorte à ce que nous pouvons accepter et nous pouvons aussi apprendre de ces expériences. Et c'est le Seigneur lui-même qui est le maître. Alors vous voyez comment cela a été le cas avec l'apôtre Paul quand il dit dans le verset 18, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. » Quel espoir de savoir qu'il n'y a rien qui touche un enfant de Dieu qui ne provient pas de la main de Dieu lui-même. Si nous lisons dans Romains chapitre 8, nous voyons Paul écrivant de cette manière. Notez bien, aux Romains, il y avait une église que le Seigneur a suscitée à Rome par la grâce de Dieu, et c'est à cela qu'il écrit cette épître aux Romains. Mais il pose ici la question dans le verset 33, qui accusera les élus de Dieu? Paul était effectivement en face de cette cour romaine comme un accusé. Mais la question posée, qui accusera les élus de Dieu? Et notez la réponse, c'est Dieu qui justifie. Justifie veut dire qu'à travers ces accusations, Dieu lui-même déclare juste chacun de ceux qu'il a choisi et pour qui Christ est mort. Il n'y a donc aucune condamnation. Peut-être que les hommes peuvent condamner, mais non pas Dieu. Alors je pose la question, qu'est-ce qui est préférable? Être justifié par Dieu ou justifié par les hommes? Ou bien, une autre manière de poser la question, qu'est-ce qui est plus grave? Être condamné par les hommes ou bien condamné par Dieu? Je crois que nous connaissons tous la réponse. Je préfère être un de ceux pour qui Christ est mort, et que le Seigneur me donne cette grâce, que quelle que soit la situation, de faire de cette situation une occasion de louer le Seigneur. Et c'est ce que Paul fait ici dans Romains 8, verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui nous manque en tout cela? si Dieu est pour nous. Et comment est-ce qu'il est pour quelqu'un? Il est pour quelqu'un en Christ. Christ est mort, cela veut dire à travers sa mort, toute la dette du péché payée, et il est ressuscité. Quelle est la preuve que Dieu accepte le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à l'égard de ceux pour qui Christ est mort? La réponse, c'est qu'il est ressuscité. C'est ce que Paul a écrit à la fin du chapitre 4 du livre de Romains, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Dieu n'aurait pas ressuscité son Fils de la mort s'il n'avait pas achevé, accompli le salut de ceux que le Père lui a donné depuis l'éternité. Alors la résurrection de Christ est la preuve que chacun pour qui il est mort est justifié devant lui. Ce n'est pas comme on entend prêcher aujourd'hui que Christ est mort pour certains qui, en fin de compte, finissent par aller en enfer. Non. Tel n'est pas le message ou l'évangile de la Bible. Tous ceux pour qui Christ est mort et pour qui il est ressuscité et ascendu, il est à la droite de Dieu, et note, il intercède pour nous. Donc, quoique Paul était seul dans sa défense, en ce qui concerne les hommes, il n'était pas seul. Et c'est le Seigneur qui l'a délivré de toute œuvre mauvaise. Ceux qui ont finalement décapité Paul l'ont tué, exécuté selon la volonté de Dieu le Père, pas un moment avant ou après. Ce n'est pas les hommes qui déterminent l'heure de notre mort, c'est Dieu. Alors, c'est pourquoi Paul dit, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. » Un homme ne va pas mourir avant le moment que Dieu lui-même ordonne, et même lorsque ce moment vient, c'est seulement une manière de quitter ce monde dépravé, déchu, et d'entrer dans la présence de Dieu. Quelle joie! Mais tout le temps que nous sommes ici dans cette vie, il intercède pour nous. Notez bien, c'est au temps présent dans Romains 8, 34. Alors la question est bien posée. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Nous sommes en train de voir ce point. Comment le Seigneur donne la grâce d'améliorer notre expérience, même les pires des expériences. Voilà comment il le fait, en nous faisant penser à l'amour de Christ. Son amour est éternel. Ceux qu'il aime, il aime depuis l'éternité et pour l'éternité. Tel est son amour. Ce n'est pas comme certains qui disent, oui, Dieu vous aime, mais si vous ne croyez pas en lui, alors il est obligé à vous envoyer à l'enfer. Ça, ce n'est pas un Dieu d'amour. Ce que Dieu aime, il aime parfaitement et il aime pour l'éternité. Alors, c'est pourquoi il est sauve. Et c'est pourquoi Paul avait cette espérance que quels que soient les mauvais projets des hommes contre lui, il dit, il me sauvera. Il me délivrera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Et cela à cause de l'amour de Christ, qui ne change jamais. Même si les hommes sont contre nous, si nous sommes à Christ, nous bénéficions toujours de l'amour de Christ, cet amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. C'est la seule manière que Dieu peut aimer un pécheur, c'est en Jésus-Christ. Alors, il dit, sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité? Cela veut dire la pauvreté jusqu'à tel point où on ne peut même pas avoir un changement d'habit ou le péril ou l'épée. Ça, c'est une liste complète de la manière que parfois dans ce monde nous pouvons anticiper la souffrance. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Quand on constate pourquoi les hommes élèvent les brebis, c'est afin éventuellement de les tuer, les amener à la boucherie. Et nous devons savoir que tel est notre sort ici dans cette vie. Nous ne sommes pas nés pour vivre à jamais dans ce corps, dans cette vie, heureusement. Parce que ce monde est déchu, ainsi que notre nature pécheresse est dépravée. Alors, certainement, c'est une délivrance, comme Paul a dit, il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. C'est une délivrance que d'être délivré de ce corps au moment voulu par Dieu. Donc nous sommes comme ces brebis destinées à la boucherie. Mais Paul dit dans le verset 37, et encore, c'est de cette manière que Dieu nous donne cette grâce d'améliorer nos expériences dans la souffrance. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ouais, combien de fois ça revient encore sur l'amour de Dieu? Je sais que beaucoup parlent de l'amour de Dieu comme si c'est un amour général pour tous les hommes. Mais l'amour de Dieu dont la Bible parle est un amour spécial. C'est un amour particulier. C'est un amour éternel. C'est un amour en Jésus-Christ. Et donc, nous sommes plus que vainqueurs en toutes ces choses, parce que Dieu ne va jamais abandonner un des siens en quoi que ce soit, mais il gardera chacun qui lui appartient. Alors il dit cela dans le verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, ceux qui disent que Dieu aime tous les pécheurs, mais en fin de compte, ces pécheurs-là seront séparés de lui dans l'enfer parce qu'ils n'ont pas cru au nom de Jésus-Christ, ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Non. Jacob, de lui, Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Il y a un amour particulier de Dieu pour les siens et c'est ça, c'est cette connaissance de cet amour à travers les souffrances qui nous aide à améliorer nos expériences, à ne pas regarder aux souffrances, mais de regarder à Dieu qui est maître de toutes ces souffrances. Et heureusement, ça nous apprend ici dans 2 Timothée 4 et le verset 18 qu'il y a un royaume céleste. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est ce qui m'encourage de jour en jour, que tout ce que je dois connaître n'est pas dans cette vie. Je suis un pèlerin qui traverse cette vie. Mais mes regards sont sur ce royaume céleste où, comme nous venons de lire, Christ est ascendu et il est assis et il règne maintenant à jamais et il intercède en faveur de son peuple. Ah, quelle grâce et quel espoir que cela donne à nous qui sommes des enfants de Dieu et qui traverse des moments difficiles et de souffrance. Même s'il n'y a pas de persécution à cause de l'Évangile, mais le simple fait de vivre dans cette chair est une souffrance. Et d'avoir l'Esprit de Dieu en nous qui ne cesse d'éclairer ce que ce qui est la nature de notre cœur, un cœur de péché. Pourtant, pour tout cela, Dieu ne nous abandonne pas, parce que Christ a déjà tout accompli. Donc, nos regards sont sur Christ et lui crucifié, et non pas sur notre situation. Alors, Paul, comme Dieu l'a délivré à travers sa vie, son espoir, selon ses délivrances passées, c'est qu'il continuerait à délivrer présentement et aussi dans le futur. C'est pourquoi il dit à la fin du verset 18, « À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Alors, nous sommes en train de voir les souffrances du temps présent, mais le Seigneur n'abandonne jamais les siens. C'est ce que nous avons vu en premier lieu. Et dit d'une manière positive, numéro 2, le Seigneur est toujours auprès des siens. Même si les hommes nous abandonnent, le Seigneur lui-même est toujours auprès des siens. Et troisièmement, nous avons vu que le Seigneur donne sa grâce pour améliorer nos expériences. Il ne faut pas anticiper cette grâce avant le besoin. C'est au moment que nous imaginons que nous ne pouvons plus continuer, peut-être, que le Seigneur fait grâce, une fois encore. Et c'est ça qui pousse chacun de nous dans ces moments à tirer une louange, même de la pire des situations, en exclamant, comme l'apôtre Paul ici dans 2 Timothée 4, 18, « À lui soit la gloire, que Dieu soit glorifié. » Voilà comment nous devons prier dans chaque instance. Ce n'est pas d'essayer par nos prières de faire en sorte que Dieu lui-même accepte notre volonté, ce que nous voulons, non. De dire toujours que ta volonté soit faite. Donc à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et puis, en quatrième lieu, face aux souffrances du temps présent, je dis ceci, c'est que c'est le Seigneur qui soutient les siens par le confort d'autres croyants. Il faut s'arrêter un peu pour penser, peut-être ce n'est pas beaucoup de gens, mais pensez à ceux qui sont de même foi que vous. Et vous êtes de même foi avec eux à cause de cette unité que donne l'Esprit de la grâce de Dieu à ceux que Dieu sauve. Paul écrivait cela aux Éphésiens en parlant de la nécessité de garder cette unité. Nous n'avons pas besoin de chercher à établir cette unité parce que c'est déjà établi en Jésus-Christ et par son Esprit. Comme nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, il faut savoir qu'il y avait des pécheurs que Dieu, dans sa grâce, a menés à faire partie de ses assemblées. Ils n'étaient pas des Juifs, ils étaient, comme on appelle, des païens. Ceux qui étaient d'autres races étaient appelés les païens. C'est de cela que Paul écrivait quand il dit dans 2 Timothée 4 que la prédication fut accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. C'était des Romains, c'était des gens qui n'étaient pas nés juifs. Et on peut imaginer, comme dans n'importe quelle assemblée, lorsqu'il y a un mélange de races, de cultures, qui pouvait avoir des problèmes. Mais qu'est-ce qui fait l'unité de ce corps, l'esprit de corps? C'est écrit ici dans Éphésiens 4 et verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Quelle est cette espérance? à laquelle les pécheurs sauvés par Dieu sont appelés. C'est Christ. Et c'est écrit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Alors, il faut considérer que c'est une grâce que le Seigneur, non seulement il nous a donné la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, mais il nous a donné aussi d'autres croyants, même s'ils ne sont pas nécessairement de même race que nous. Parce que Dieu a un peuple qu'il a sauvé de toute nation, de toute langue. Je ne serai pas maintenant en train de vous prêcher en français, parce que je ne suis pas français, c'est évident, par mon accent. Mais le Seigneur m'a fait apprendre cette langue afin que je sois un encouragement certainement pour des francophones. Pas pour tous. Je suis sûr qu'il y en a qui m'écoutent, qui peuvent peut-être critiquer ma manière de parler en français. Mais peu importe, si Dieu me permet de communiquer ce message à ses élus, partout où ils se trouvent, afin de les encourager dans leur souffrance. Et voilà la liste que nous avons ici, dont Paul lui-même mentionne dans le verset 19 jusqu'au verset 21. Prisca et Aquila et la famille d'Onésiphore, ce sont des gens que Paul n'aurait jamais dû connaître si ce n'était le fait qu'en se déplaçant pour prêcher l'Évangile, maintenant, le Seigneur a révélé que cela lui appartenait. Eraste est resté à Corinthe. Et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Alors, ce sont des gens que Paul mentionne qui lui sont proches à cause de l'Évangile. Et il dit, tâche de venir avant l'hiver. Ubulus, Pudence, Linus, Claudia, ce sont des noms romains, mais que Dieu a mis sur le chemin de l'apôtre Paul et il considère comme frères. Il dit, tous les frères te saluent. Alors pour cela, nous devons aussi remercier le Seigneur pour ce corps, pour ceux que le Père a choisi depuis l'éternité, pour qui Christ est mort à la croix et que l'Esprit attire en son temps. Et puis finalement, puisque le temps est passé, nous voyons en cinquième lieu que c'est le Seigneur qui fortifie les siens par sa grâce. Quelles que soient les souffrances, nous pouvons anticiper que c'est le Seigneur qui fortifiera les siens. C'est pourquoi Paul conclut en priant que le Seigneur Jésus soit avec l'esprit de Timothée. Et nous avons plus besoin de nous rendre contents et heureux dans le Seigneur Jésus, que le Seigneur soit avec ton esprit. C'est ce que nous lisons, puisque c'est en lui que nous avons notre réconfort et que la grâce soit avec vous. On ne pouvait pas donner une meilleure bénédiction que cela, face aux souffrances, face à la vie dans cette chair, que le Seigneur soit avec ton esprit et que la grâce soit avec vous. Alors ma prière, c'est que le Seigneur bénisse ce que nous venons d'entendre aujourd'hui à sa gloire et son honneur.